Bonjour Constantin.
Bonjour Claire, bonjour à tous.
Nous sommes ravis, comme d'habitude, de vous retrouver pour notre émission France Catholique, la revue commentée. Alors, dans cette nouvelle édition, France Catholique met à l'honneur la figure de Saint Benoît, patron de l'Europe. Pourquoi le redécouvrir aujourd'hui?
Eh bien d'abord parce que les élections européennes approchent à grands pas, ça sera début juin, et puis aussi parce que 2024 marque le 60e anniversaire de la proclamation par le pape Saint-Paul VI de Saint-Benoît comme patron principal de toute l'Europe. Alors juste pour rappeler, Saint-Benoît, nous sommes donc au 6e siècle, 5e, 6e siècle. C'est lui le fondateur donc des bénédictins de aujourd'hui connus sous le nom de voilà de l'ordre de Saint-Benoît. Saint-Benoît a été déclaré saint patron de l'Europe par Paul VI parce que rappelait alors le pape, il peut être tout simplement crédité d'avoir forgé l'unité européenne et notamment grâce à ce qu'on appelle la règle de Saint-Benoît qui était on va dire le règlement que Saint-Benoît laisser à ses frères la règle de vie à suivre dans les différents monastères de l'ordre. Et la règle de Saint Benoît, c'est vraiment la grande œuvre du saint moine qui l'a donc laissé hein, pour organiser la vie dans les monastères. C'est un petit livre qui est tout entier vers la recherche de Dieu. Et ce qui est très intéressant, c'est que le fait de fonder une règle sur la recherche de Dieu, eh bien, va découler. De ça va découler l'unité de l'Europe. Alors dit comme ça peut paraître un peu étonnant, on peut se demander pourquoi, mais en fait, je veux dire, d'un point de vue pratique, c'est très logique. Il faut savoir que Saint Benoît arrive à une époque où l'Europe est fracturée par la dislocation de l'Empire romain, et les bénédictins, dont la vie va être vraiment extrêmement structurée par cette règle de Saint Benoît, eh bien, vont vivre une vie qui, en cherchant Dieu, va tout simplement eh bien, développer les arts et les sciences, hein, toujours pour chercher Dieu. Cette règle, cette vie bénédictine va également établir la primauté du culte divin avec l'importance d'une prière liturgique et assidue et qui va dès lors cimenter l'unité spirituelle d'une Europe composée de peuples de langues, de races et de cultures diverses, hein, pour reprendre l'expression de Paul VI. Et puis on peut également citer, vous savez, la formule latine pour parler de la vie bénédictine, c'est ora et labora, c'est-à-dire prier et travailler. Eh bien, le travail à l'époque, c'était notamment l'agriculture. Et le travail de la terre des bénédictins va transformer des terres européennes désertiques en des champs fertiles. Alors, il faut aussi comprendre que la raison pour laquelle la règle de Saint-Benoît et les bénédictins ont tellement transformé toute l'Europe, c'est parce que la règle a été particulièrement diffusée aux quatre coins du continent et par des personnes d'une stature quand même très importante. Et on peut citer par exemple Saint Grégoire le Grand, qui était pape de 590 à 604. On peut aussi citer les souverains carolingiens comme Louis le Pieux, qui impose la règle à tous les monastères de l'Empire carolingien. Et puis, il faut aussi rappeler que l'ordre bénédictin, c'est quelque chose d'absolument énorme et qui va grossir de plus en plus à mesure que les siècles vont passer. Il faut bien se dire qu'à la fin du XIIe siècle, l'ordre bénédictin représente près de 100 000 monastères en Europe. Ces monastères ne sont pas des citadelles, d'ailleurs. Les moines vivent en relation avec les habitants qui sont autour des monastères et l'instruction de qualité qui est prodiguée par les moines n'était pas d'ailleurs réservée simplement aux novices, hein, aux futurs moines, mais les fonctionnaires de l'Empire, par exemple, et les enfants de la noblesse, même des enfants de milieux modestes, viennent suivre ce qu'on pourrait appeler de manière un peu anachronique une scolarité auprès des moines. Et pour illustrer même à quel point les milieux modestes pouvaient bénéficier de l'enseignement bénédictin, on peut citer par exemple Gerbert d'Aurillac, qui est le futur pape Sylvestre II, hein, pape de 999 à 1003. La tradition dit qu'il était pâtre, c'est-à-dire qu'il faisait paître le bétail, et qu'il a donc reçu cette scolarisation auprès des bénédictins. Il faut aussi signaler que dans ce nouveau numéro de France Catholique, nous proposons l'interview de Don Notker Wolf, qui est l'ancien abbé primat de l'ordre bénédictin. Alors, il s'est passé quelque chose, c'est que finalement, en fait, cette interview de Don Steppenwolf est la dernière interview qu'il ait accordée, puisque il est mort subitement le 3 avril dernier, quelques jours seulement après nous avoir accordé cet entretien. Un très bel entretien qui, pour avoir d'une certaine façon, vu les circonstances, avoir presque des allures de testament spirituel et surtout de déclaration d'amour envers Saint Benoît. Et Don Steppenwolf nous explique à quel point cette logique de chercher Dieu était une logique fondamentale, et même dans ses implications pratiques, il rappelle à quel point eh bien, ce qui est au cœur de la vie bénédictine, c'est l'étude de la parole de Dieu, et que dès lors, pour étudier la parole de Dieu, eh bien, il faut des livres. Puisqu'il faut des livres, eh bien, il faut créer des bibliothèques dans les monastères. Donc, démarre dès lors toute une logique d'accumulation et de transmission d'un patrimoine aussi bien d'auteurs antiques que d'auteurs à l'époque contemporains. Puisqu'il faut étudier la parole de Dieu, il faut une école qui soit liée au monastère. Puisqu'il faut étudier la parole de Dieu et qu'il faut la diffuser, eh bien, il faut apprendre à écrire pour recopier les textes à transmettre, donc la Bible et les manuscrits des philosophes antiques. Les écritures, rappelle Don Steppenwolf, d'un point de vue de la vie liturgique, se lisent, se chantent. Également, c'est à cette époque, enfin à l'époque de Saint Grégoire le Grand, qu'on va voir apparaître le grégorien. Bref, il fait un peu le point et montre de manière très pratique à quel point la vie bénédictine a irrigué la société européenne pendant tous ces siècles.
Alors, quel enseignement pouvons-nous retenir de cette règle de Saint Benoît?
Alors c'est ça ce qui est extrêmement, extrêmement beau avec la règle de Saint Benoît, c'est que c'est un très vieux document qui a 1500 ans environ, et pourtant cette règle de Saint Benoît est toujours, d'abord toujours en vigueur chez les bénédictins, signe de son actualité. Et puis surtout, et ça on le voit souvent dans la production littéraire, très régulièrement, il y a des livres qui sortent pour commenter ou présenter ou expliquer comment la règle de Saint Benoît peut s'appliquer, par exemple. il y a quelques années, plusieurs livres étaient sortis sur le sujet, montrer comment la vie en entreprise eh bien, pouvait s'appuyer sur la règle de Saint Benoît. Alors il y a plusieurs enseignements hein, que l'on peut retenir de cette règle de Saint Benoît et que nous donne notamment Don Marc Guyot, qui est le père abbé de l'abbaye Sainte-Marie de la Garde, qui est une fille. Excusez-moi, une fille de l'abbaye du Barou, et il explique que parmi les enseignements, eh bien, il y a par exemple l'importance du travail. Hein. Saint Benoît rappelait que l'oisiveté était ennemie de l'âme. Le travail, rappelait Saint Benoît dans sa règle, eh bien, c'est une exigence spirituelle, puisqu'en travaillant, l'homme collabore à l'œuvre divine, puisque Dieu aussi travaille. Dans la règle de Saint Benoît et dans la vie bénédictine, il y avait aussi l'explication, enfin le rappel, que si les moines travaillent, eh bien c'est à l'origine toujours pour étudier la parole de Dieu, puisque il faut des livres et donc il faut fabriquer du cuir pour la reliure. Et donc cela a donné cette culture de l'élevage chez les bénédictins. Pour la messe que célèbrent les moines, eh bien il faut du vin. C'est la raison pour laquelle il y avait des vignes qui étaient souvent rattachées au monastère bénédictin. Donc, l'importance du travail, voici peut-être un premier enseignement de la règle de Saint Benoît. On peut également apprendre l'écoute, puisque le début du prologue de la règle, qui est un prologue fameux, c'est Écoute, mon fils, les instructions du maître et prête l'oreille de ton cœur. Et ça, Don Marc Guyot explique bien à quel point l'écoute est vraiment quelque chose de très important dans la règle de Saint Benoît et que lié à cette écoute, eh bien, il y a la notion d'humilité qui est également très importante chez les bénédictins. Donc après le travail, voilà, l'écoute et l'humilité, c'est peut-être un deuxième enseignement. On peut aussi citer le fait de placer le Christ au centre. Don Steppenwolf, hein, dont on parlait il y a quelques instants, expliquait que les moines ne préfèrent absolument, les moines ne préféreront absolument rien au Christ. Ça, c'est la phrase de Saint Benoît. Et Don Steppenwolf explique que le Christ est à la fois la pierre d'angle et la clé de voûte de l'édifice bénédictin. Et puis, voilà, on peut peut-être également, comme dernier enseignement que l'on peut trouver dans la règle de Saint Benoît, eh bien, ce qu'on appelle la maîtrise de la langue, qui veut dire qu'il ne faut pas trop parler, il ne faut pas parler pour dire du mal de son prochain. Voilà, somme toute, des enseignements assez classiques hein, au regard de l'Évangile, mais saint Benoît l'a écrit avec, avec un français, pourrait-on dire, avec une langue en tout cas si pure et si efficace que encore aujourd'hui, plus d'un millénaire, 1500 ans plus tard, la règle de saint Benoît reste encore très pertinente et peut encore nourrir la vie spirituelle et même la vie pratique, à la vie au travail de nombre de nos contemporains.
Et nous découvrons aussi une histoire méconnue sur l'origine catholique du projet européen.
Oui, parce que lorsque l'on rappelle que saint Benoît est le saint patron de l'Europe, eh bien, Fabrice Madouas, qui signe ce dossier pour France catholique, rappelle également que les Européens et les dirigeants européens n'ont pas montré beaucoup de reconnaissance filiale vis-à-vis de leur saint patron. On se souvient peut-être à l'époque notamment des septennats du président Jacques Chirac, tout le débat qu'il y avait eu sur la possibilité ou non d'inscrire la mention des racines chrétiennes de l'Europe dans les documents européens. Ça n'avait pas eu lieu. Et il y avait eu de grands débats pour savoir si c'était laïque ou non d'inscrire ces racines chrétiennes de l'Europe. Et nous rappelle Fabrice Madouas, l'idée européenne est vraiment très très proche d'une influence catholique. Et il raconte notamment cette histoire peu connue, dont on ne cultive pas la mémoire, qui se tient à la fin fin des années 40. Robert Schuman, qui est un des pères de l'Europe, hein, mais qui à l'époque n'était qu'un catholique fervent, qui souhaitait simplement jeter les bases d'une union européenne pour garantir la paix, eh bien, est un peu embêté parce qu'il sent que dans les opinions publiques européennes, cette idée d'une union européenne peut un peu bloquer, susciter des réticences. D'abord, il n'y a pas de majorité en France à l'Assemblée pour approuver cette idée, et puis surtout, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et les plaies sont encore vives, et les peuples européens, les dirigeants européens en tout cas, n'ont pas forcément envie d'entendre parler cette idée. Alors, dans l'entourage de Schuman, qui veut quand même faire progresser cette idée, on a une idée. Pourquoi ne pas organiser un colloque international réunissant clercs et laïcs pour célébrer les 1400 ans de la naissance de Saint Colomban, qui est un moine irlandais contemporain de Saint Benoît, qui a beaucoup fait pour évangéliser le continent européen en marchant à travers l'Europe. Et pourquoi pas, pense-t-il, à l'occasion de ce colloque international, vraiment totalement incidemment, en fait c'était vraiment calculé, pourquoi pas essayer de pousser cette idée européenne auprès des gens qui sont regroupés en masquant tout cela sous le patronage ou sous le déguisement d'un colloque dédié à Saint Colomban. Et effectivement, du 20 au 23 juillet 1950, il y a ce colloque qui se tient en présence notamment du nonce apostolique Monseigneur Roncalli, qui deviendra Jean XXIII, le pape Jean XXIII, quelques années plus tard, des universitaires, des théologiens, des ministres des sept pays européens et un délégué de l'ambassade américaine. Eh bien, cette idée d'union européenne, eh bien, Robert Schuman va la présenter un peu à tout le monde. Et, hasard ou non, un an plus tard, eh bien, il y a signature du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, qui est la première incarnation à venir de l'Union européenne. Bref, on voit bien que le premier maillon de la construction européenne a bien été un maillon catholique, et que l'Union européenne aujourd'hui est bien oublieuse de ses racines. Voilà donc quelques mots sur l'aspect catholique de l'Europe, mais il y a bien d'autres aspects qui sont développés dans ce dossier de France catholique.
Un grand merci à vous, Constantin, déjà de nous les avoir rappelés dans les grandes lignes. Et nous terminons cette revue commentée avec notre tour de France des sanctuaires mariaux. Alors aujourd'hui, nous nous rendons à Notre-Dame de Lumière dans le Vaucluse.
Oui, une très belle histoire d'un sanctuaire qui a été relevé par un miracle. L'histoire, si on peut dire, se passe à la fin du XVIIe siècle, où un vieillard infirme, hein, connu sous le nom de Philippe de Nantes, marche claudique jusqu'à une chapelle, plutôt devant les ruines d'une chapelle qui était consacrée depuis le IVe siècle à la Sainte Vierge. un sanctuaire qui avait été totalement abandonné, et d'autant plus que les guerres de religion l'avaient complètement détruit. Et alors que ce vieillard qui boite lourdement s'approche de ces ruines, eh bien, il voit une grande lumière. Alors il s'approche de cette grande lumière, et là il voit le plus bel enfant qu'il eût pu imaginer. Et donc on comprend évidemment par ce témoignage que ce plus bel enfant, c'est bien le Christ lui-même. Alors le vieillard avance vers cette lumière, avance vers l'enfant, il tend les bras, mais l'enfant disparaît, la lumière disparaît, et eh bien, la conséquence de tout cela, c'est qu'il est guéri et il peut de nouveau marcher, lui qui souffrait d'une hernie extrêmement handicapante. Alors 2 ans plus tard, en 1663, à la suite de ce miracle, un sanctuaire va être construit sur les ruines de l'ancienne chapelle. Il va être consacré en 1669 sous le beau vocable de Mère de l'éternelle lumière, et deviendra au bout d'un certain temps, va connaître un nouveau vocable qui est celui de Notre-Dame de lumière, qui est celui qui est connu aujourd'hui. Les pèlerins sont nombreux jusqu'à la Révolution française. À partir de ce moment-là, eh bien, le sanctuaire est transformé et confisqué comme bien national. Et il faut attendre 1823 pour que des religieux reviennent. Et en 1836, Saint Eugène de Masneau l'achète aux Trappistes et y installe des oblats de Marie Immaculée qui s'y trouvent encore aujourd'hui, presque 2 siècles plus tard.
Merci beaucoup Constantin. Nous arrivons au terme de notre émission. Je rappelle à nos auditeurs le site internet de France Catholique, www.france-catholique.fr. Vous avez la possibilité aussi de suivre France Catholique sur Facebook, Twitter et Instagram. Un grand merci Constantin pour ce temps passé avec nos auditeurs.
Merci Claire et à la semaine prochaine.
Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée. Vous pouvez retrouver notre émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.